Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h30 et c'est l'heure de votre émission d'actu L'Inattendu. Que vous soyez chez vous dans votre fauteuil, sur la route ou en train d'attendre à la pompe à essence, nous allons charmer vos oreilles ce soir pendant une heure. Avec moi pour animer cette émission, Bleuhen, bonsoir à toi.
Bonsoir Jeanne.
Ce soir, on vous parle d'Amour West Side Story. C'est un spectacle radiophonique qui se déroulera à Rennes dimanche prochain et où des personnes monteront sur scène pour nous raconter leurs histoires d'amour. J'ai pu interviewer Anouk Edmond de la web radio brestoise Oufipo qui organise cet événement.
Dans le cadre des Mardis de l'égalité ce soir au Tambour, on parle des pratiques sportives des femmes en situation de vulnérabilité. Gaëlle Sampé, maîtresse de conférences en sociologie et en STAPS à l'Université Rennes 2, a répondu à mes questions.
Et ce soir, on a trois chroniqueurs avec nous. On parlera science avec Chandrou, littérature jeunesse avec Jean-François. Et pour alléger un peu tout ce beau programme, Gauthier nous fera rire à gorge déployée dans sa chronique humoristique.
Mais avant tout ce programme, on poursuit la série En route vers les municipales 2020 à Rennes avec Julien. Cette fois, il a rencontré Carole Gandon qui se présente pour la liste La République en marche.
Vous ne le savez pas encore, mais L'Inattendu, c'est votre émission d'actu locale préférée et ça commence maintenant.
Et on commence, comme toujours, cette émission par une page d'actualité.
Alors, par contre, j'aimerais avoir mon jingle municipal, s'il vous plaît, qui est va arriver, et j'y tiens, hein, le super beau jingle sur ton de...
C'est de ma faute.
La jingle municipal, le voilà, on l'écoute.
Politique.
Les élections municipales.
Les élections locales.
De quoi relancer l'intérêt pour le second tour des municipales.
Globalement, ces municipales s'avèrent assez difficiles.
Rennes.
Ah. Ça y est, Julien, tu es content ?
Ça y est, je suis content.
Alors, bonsoir.
Merci,
toi,
Julien. Julien, la technique aussi qu'on peut, je pense, saluer parce que là, il a fait du boulot rapidos que vous ne voyez pas, mais félicitations.
Alors, de quoi tu nous parles, Julien ?
Alors ce soir, on va justement parler de Carole Gandon, qui est candidate pour la liste La République En Marche à Rennes et que j'ai pu rencontrer dans la semaine. Et voilà ce que ça donne. Carole Gandon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous travaillez dans une PME numérique à Cesson-Sévigné. Vous êtes née en Martinique. En octobre 2017, vous avez été nommée référente La République En Marche en Ille-et-Vilaine. Vous étiez auparavant au Parti Socialiste. En juillet 2019, vous avez été investi par Paris pour représenter LREM aux élections municipales de Rennes l'an prochain. Comme je le disais, vous étiez avant au Parti Socialiste. Est-ce que vous avez quitté le bateau avant qu'il ne sombre pour ensuite rejoindre La République En Marche ?
Alors, en effet, je viens de la gauche. J'ai toujours voté à gauche et je m'étais engagée en 2006 au Parti Socialiste parce que j'avais envie d'agir et que je me retrouvais dans les valeurs portées par ce parti qui était à l'époque pour moi un grand parti progressiste. Mais c'est vrai que j'ai été assez déçue du fonctionnement que j'ai découvert à l'intérieur de ce parti qui était très vertical, très hiérarchique et puis surtout... un peu dogmatique sur certains fonctionnements. Je trouvais que les militants avaient une grille de lecture toute faite sur le monde et manquaient un petit peu de pragmatisme dans leur action. Donc je m'en suis éloignée. Et puis lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé en 2016 et a porté des valeurs européennes, des valeurs d'égalité femmes-hommes, des valeurs d'émancipation par l'école et par la formation, je m'y suis retrouvée. Je me suis aussi retrouvée dans l'idée qu'il portait, qu'il fallait dépasser les clivages droite-gauche, qu'il fallait faire confiance, qu'on pouvait faire confiance aux gens du terrain, qu'on pouvait prendre des bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et voilà, ça m'a parlé et je me suis sentie bien dans le mouvement En Marche, où j'ai trouvé une forme d'agilité, de liberté d'action que je n'avais pas connue avant.
La flamme du PS a l'air de toujours résonner en vous, parce que j'ai vu que vous citiez assez régulièrement Edmond Hervé, l'ancien maire Parti Socialiste de 1977 à 2008 à Rennes.
Absolument, Edmond Hervé est une figure pour Rennes. Il a été un grand maire, bâtisseur et visionnaire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. Et je salue l'action qu'il a menée pour notre ville. Il a contribué à façonner le visage de notre ville. Donc je sais reconnaître les bonnes idées là aussi et les bonnes initiatives quand elles existent.
En parcourant le site internet Révéler Rennes, j'ai remarqué que ce qui vous tenait à cœur, vous surtout, c'était de contrer le Rassemblement National. Vous dites, je cite, « contrer les extrêmes qui jouent sur les peurs ». Et un peu plus bas, toujours sur ce site, vous exposez ce que vous proposez et vous parlez notamment de la question des incivilités et des insécurités. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ?
Alors, non, au contraire, je pense que c'est parfaitement cohérent. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'évoquer le déclic de mon engagement politique, ou en tout cas de ma prise de conscience politique. Ça remonte en effet au 21 avril 2002, lorsque j'avais 18 ans et je votais pour la première fois. Et on a eu ce face-à-face Chirac-Le Pen qui m'a contraint à voter à droite, à ce moment-là, pour l'unique fois dans ma vie d'ailleurs. Et de fait, depuis 2002, on observe une montée de l'extrême droite en France, mais pas seulement, dans toute l'Europe. Et en parallèle, une montée aussi de l'abstentionnisme, une désaffection des urnes. Et c'était aussi un des éléments déclencheurs qui m'a encouragé à m'engager, à rentrer dans l'action, à ne plus être simplement observatrice de la vie politique. Je me suis dit, il se passe quelque chose, il faut que je comprenne et puis il faut que j'agisse. Donc c'est en effet un de mes combats, essayer par tous les moyens de rétablir de la confiance entre les gouvernants, les représentants politiques et les citoyens. Je m'y suis employée pendant les 3 années où j'ai été référente départementale d'En Marche. J'ai cultivé tout le temps ce dialogue exigeant avec les citoyens pour aller déconstruire les thèses du Front National, du Rassemblement National, lutter contre les fake news, expliquer sans relâche l'action que nous menons au gouvernement, qui est une action de responsabilité, de pragmatisme et d'émancipation et de lutte contre les inégalités réelles.
Mais du coup, citer comme ça la question des incivilités et des insécurités, parler du mal-être dans certains quartiers, c'est pas un peu, justement, vous-même jouer sur les peurs ?
Mais au contraire, je pense que c'est, il faut pas laisser ce champ-là à l'extrême droite. Il y a, si vous voulez, une montée du sentiment d'insécurité en France. C'est un phénomène qu'on retrouve partout dans les grandes villes et Rennes ne fait pas exception. Alors, Rennes, il faut le rappeler, c'est une ville où on n'a pas des taux de délinquance et de violence qui sont extrêmement forts. Quand vous comparez avec les autres grandes villes, on n'est pas une ville violente. Mais les chiffres le montrent, ces faits d'incivilité ou de violence quand même augmente, il se multiplie. Et le ressenti est très fort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens expriment une inquiétude ou une exaspération, voire une peur, par rapport à ces incivilités, ces agressions, ces vols. Et on le voit, la ville aujourd'hui est effectivement moins sûre qu'avant. Donc je veux répondre de manière courageuse à ce questionnement et à ces inquiétudes. Et justement, je ne veux pas laisser le champ à l'extrême droite qui stigmatise les étrangers, qui monte les gens les uns contre les autres. Je veux proposer des réponses fortes. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on doit agir. Il y a un axe très important sur la prévention. C'est ce qu'a fait la gauche depuis 30 ans. On voit que ça ne suffit pas, malheureusement. Donc il faut agir sur tout le continuum de sécurité, la prévention, la médiation et la sanction. Je pense que c'est important de rétablir un cadre clair et que les règles soient respectées. À Rennes comme ailleurs, on peut faire mieux pour rétablir un climat de respect mutuel, de respect des règles et accompagner la citoyenneté et le vivre ensemble des habitants en étant beaucoup plus ferme sur les réponses à apporter aux incivilités et à la délinquance.
En parcourant un petit peu votre site internet, vous taclez également la maire sortante de Rennes, Nathalie Appéré, en soulignant que les belles réalisations d'aujourd'hui sont presque toutes le fruit de la vision des maires qui l'ont précédée. Vous estimez que la politique de Nathalie Appéré, elle est défavorable aujourd'hui pour la ville de Rennes ?
Rennes est une ville que j'aime. Je l'aime d'un amour exigeant, Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de choses positives à Rennes. C'est une ville qui a une grande vitalité, qui est attractive. Et mon propos n'est pas de dire que tout va mal et qu'il faut tout changer. Effectivement, il y a beaucoup de belles réalisations qui sortent aujourd'hui, qui sont le fruit du travail initié sous les mandats précédents et que l'équipe actuelle a mené à bien. Je leur reconnais, je leur donne ce crédit. Ils ont mené à bien un certain nombre de chantiers, comme la deuxième ligne de métro, comme le projet de la nouvelle gare, comme le couvent des Jacobins. Mais pour moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas préparé l'avenir. Aujourd'hui, Rennes a tout ce qu'il faut pour être une ville modèle sur la question de la transition environnementale. On a des entreprises innovantes, on a des universités, des centres de recherche qui sont extrêmement performants, on a une vitalité économique, une vitalité démographique. On a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour devenir une ville verte à l'échelle européenne et être véritablement en avance et à l'avant-garde sur ce point. Et ce que j'observe, c'est que on est dans le pas assez, on lance des expérimentations sur des sujets et on n'est pas capable de mettre en place des projets structurants pour pouvoir transformer notre façon de nous déplacer, notre façon de consommer, notre façon d'habiter. Il y a beaucoup à faire sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur les transports, sur notre façon de consommer, la gestion des déchets aussi. Il y a vraiment plein de sujets sur lesquels, je trouve, Rennes n'est pas à l'avant-garde et moi je veux renouer avec cette ambition.
Si vous devenez maire à Rennes, est-ce que vous prendrez justement les rênes de la métropole que vous associez bien souvent à la ville ?
Je pense que Rennes doit être pensée à l'échelle de son territoire. C'est au niveau de la métropole qu'il faut préparer l'avenir. Nous avons, j'en parlais tout à l'heure, une vitalité démographique. Les dernières études de l'INSEE démontrent que nous allons gagner 100 000 habitants en 20 ans. Ça veut dire qu'en 2040, il y aura 550 000 habitants dans la métropole rennaise. Aujourd'hui, la ville est en train de s'essouffler. On le voit, nos axes de circulation sont saturés, la rocade est saturée, il y a de plus en plus de difficultés à circuler, le logement est sous tension, les prix de l'immobilier flambent, il y a une difficulté à recruter pour les entreprises qui sont installées sur notre territoire. Donc, la ville s'essouffle. Il faut penser Rennes à l'échelle de la métropole et donc construire des équilibres pour essayer d'organiser une attractivité qui va sortir de la rocade, encourager les entreprises à s'installer dans les communes autour de Rennes. Et ça passe par un plan pour les transports qui soit ambitieux. C'est pour ça que je veux prolonger les deux lignes de métro pour les faire sortir de la rocade et connecter les communes entre elles avec un bus à 360 degrés qui fera le tour de la rocade, avec des parkings relais en extérieur de rocade pour permettre de décharger les flux de circulation et que les gens puissent rentrer dans la ville en transport en commun. Et donc, oui, on a cette vision métropolitaine. Après, pour la question de la candidature à la présidence de la métropole, j'estime que on peut tout à fait imaginer de partir sur un tandem avec la maire de la ville-centre et puis un président du conseil métropolitain qui pourrait être le maire d'une autre commune. Je ne suis pas tranchée encore sur cette question, je laisse la porte ouverte, mais je serai extrêmement exigeante à la qualité du projet métropolitain qui sera porté parce qu'il a un impact très concret et direct sur la qualité de vie des Rennais.
Et enfin, dernière question, je vais me permettre de vous poser la question que j'ai posée précédemment aux autres candidats et candidates des différentes listes que j'ai pu interviewer. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait mettre en place une plus grande écoute des populations dans les quartiers ?
Alors, à Rennes, effectivement, vous aviez historiquement des relations très étroites entre le Parti socialiste et les quartiers, en particulier les quartiers populaires, avec une attention portée à l'éducation populaire, au monde associatif. Et ce que j'observe, c'est que ce lien aujourd'hui, il est distendu. Beaucoup de jeunes dans les quartiers se sentent un petit peu abandonnés, ne se sentent pas écoutés par l'équipe actuelle. Il y a besoin de restaurer de la proximité. Les élus ne vont pas dans les quartiers. Ils ne vont pas écouter les populations. Population travaille avec eux. Sur ce sujet de la sécurité dont je parlais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment une thématique qui est presque, c'est presque un problème de gauche, en fait. Et ce que je reproche à Nathalie Appéré, c'est de se défausser systématiquement sur l'État, de ses responsabilités sur l'État, sur ces questions, et d'abandonner ces quartiers, alors même que ce sont les populations les plus fragiles qui souffrent en premier lieu de cette question des incivilités et de l'insécurité. Donc il faut renouer ce lien. Moi, j'ai lancé cet automne une grande marche rennaise qui nous conduit dans les 12 quartiers de la ville. Pendant 12 semaines, on va rencontrer les habitants, on fait des porte-à-porte, on fait des bistrots citoyens, on va dans les petits PMU au fin fond des quartiers échanger avec les habitants. Et ça nous permet de leur redonner du pouvoir d'agir et de leur redonner confiance. Je sais que du coup, je mets la barre haute, je prends une grande responsabilité de ne pas les décevoir, mais je crois qu'il faut faire la ville avec eux, s'appuyer sur les initiatives qu'ils portent. Ils ont plein d'idées pour changer leur quartier au quotidien. Les jeunes aussi portent des très belles initiatives, des très belles propositions. Il faut valoriser tout ça et donc retisser ce lien de proximité avec les quartiers.
Merci beaucoup, Carole Gandon, d'avoir accepté cet entretien.
C'est moi qui vous remercie.
Politique.
Les élections municipales.
Les élections municipales.
Les élections locales.
De quoi relancer l'intérêt pour le second tour des municipales.
Globalement, ces municipales s'avèrent assez difficiles.
Rennes.
Et maintenant, place à Chandroux qui vient nous faire sa chronique Vue du Lab en partenariat avec l'association de vulgarisation Si j'avais su. Salut Chandroux.
Salut Bleuane, ça roule?
Bah ça va et toi?
Bah ouais, très bien.
Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Chandroux?
Bah aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui peut sembler contre-intuitif. Il y a certains médicaments qui peuvent être plus dangereux lorsqu'on les prend que lorsqu'on les prend pas.
Ah ouais, donc la revue Prescrire a dressé une liste de médicaments à éviter.
Ouais, exactement, c'est ça. Depuis 8 ans, la revue Prescrire, en fait, liste un peu tous les médicaments qui sont dangereux. Et cette année, ils l'ont remise à jour et ils ont donc rajouté une dizaine de médicaments.
Ils se sont basés sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque pour évaluer ces médicaments, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors, la balance bénéfice-risque, c'est quoi ? Quand on prend un médicament, on le prend avant tout pour les bénéfices qu'il nous apporte. On a mal à la tête, on prend un Doliprane, ça va mieux. Le problème, c'est que n'importe quel médicament induit aussi des effets secondaires. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer avec la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients ? Or, la revue Prescrire a listé toute une liste de médicaments pour lesquels, en fait, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Parmi eux, il y a par exemple le Smecta que vous connaissez, je pense.
Bah oui, forcément.
C'est le plat qu'on nous fait boire quand on a un peu mal au bide, et ben celui-là, il semble qu'il pose plus de problèmes. Mais il y a aussi des sirops contre la toux, comme le Vicks. Parmi eux, il y a aussi des antidépresseurs, des médicaments contre les maux de ventre, contre le diabète ou encore contre Alzheimer. Bref, aucun type de médoc n'échappe en fait à ça.
Mais c'est qui est derrière la revue pour critiquer ces médicaments-là ?
Alors en fait, la revue Prescrire, c'est une des rares revues médicales qui est totalement indépendante. Elle appartient uniquement à ses adhérents. Donc déjà, voilà, il y a peu d'influence extérieure. Mais en plus de ça, les rédacteurs de cette revue Prescrire sont principalement des personnels soignants, des médecins, des infirmiers. Donc des gens qui sont dedans tout en étant indépendants.
Qui savent donc comment agissent les médicaments. Il n'y a pas de risque de lobbying derrière.
Exactement, c'est ça.
Et comment ça se fait que ces médicaments soient commercialisés alors qu'ils sont dangereux ?
Alors je pense que déjà, faut pas tomber dans une théorie du complot. Parfois, on manque tout simplement de recul. On va donner un médicament, puis une fois que toute la population le prend, c'est qu'au bout de quelques années qu'on voit les effets. Mais on a pu voir dans certains scandales, comme ceux du Mediator par exemple, que quand bien même les médecins se rendent compte que ça part en live, il n'y a pas de changement. Pourquoi ? Bah parce que derrière, on parle de l'industrie pharmaceutique, donc d'intérêts financiers qui sont énormes. On parle donc évidemment de lobby pharmaceutique, mais aussi un autre truc sur lequel je voulais mettre un peu le doigt, c'est sur la responsabilité parfois de l'Agence Nationale de Sécurité et du Médicament. C'est une agence gouvernementale et c'est elle en fait qui donne les différentes autorisations. Et bien parfois elle aussi se trouve parce que pendant de longues années malheureusement elle a été un peu infiltrée par le lobby pharmaceutique.
Et moi je me demande, ces médicaments qui sont dans la liste, est-ce que il y a des ce qui cloche en fait, c'est vraiment le médicament ou est-ce que aussi on parle beaucoup des dangers de l'automédication, tout ça, est-ce qu'ils donnent plus d'indices là-dessus?
Alors là c'est hyper intéressant carrément. Ouais, il y a deux types d'aspects. Il y a d'un côté les médicaments qu'on donne effectivement sans ordonnance. On va tout simplement voir le pharmacien, on lui dit voilà, j'ai un peu mal à la gorge, il va nous filer éventuellement du Vicks. Donc là c'est clair qu'il y a le risque de l'automédication, mais plus encore il y a vraiment le risque des médicaments prescrits. Les médecins sont pas au courant de tout, ils n'ont pas forcément le temps de se former au fur et à mesure. Et donc ce qui est très bien avec la revue Prescrire, c'est qu'ils disent attention, tel médicament est potentiellement dangereux, mais ils proposent des alternatives. Il y a souvent des molécules un peu similaires, des dosages un peu différents qui font qu'il y a moins de risques à prendre tel ou tel médicament.
Et cette liste-là de médicaments à éviter, on peut la retrouver sur le site internet de la revue Prescrire.
Ouais, exactement. J'invite n'importe qui à aller la voir, vous-même, même si vous prenez des médocs. Et si jamais vous vous rendez compte qu'un des médicaments que vous prenez est dedans, bah surtout, pas de panique. Restez calme, parlez-en tranquillement à vos médecins et vous trouverez ensemble une alternative, des nouvelles solutions pour pouvoir aller de l'avant et consommer des médicaments qui sont utiles et surtout pas dangereux.
Merci beaucoup, Sandro.
Bah, merci à vous.
La radio sauvage. Depuis la semaine dernière, on vous fait un teasing de ce qui vous attend au Bar en Transe à partir de jeudi. Cette fois, on se laisse envoûter par la poésie de la rappeuse Roxane. À tout juste 18 ans, elle cartonne déjà un max. Elle sera là au 88 Live Club ce samedi à Rennes. On écoute son titre, Contemplation.
Je crois bien que j'ai détruit un si beau cœur sans le vouloir. Et si beaucoup de différents nous ont induits dans nos erreurs. Laisse-moi au moins venir t'aider, te sauver de tes pleurs, eh. Nos différences étaient le fruit de notre adoration. On s'est unis, on s'est tenus, on s'est tués. Sans faire la cour à court de fleurs et d'horizons. On s'est unis, on s'est tués, sans plus jamais se retenir. Et si demain n'existe pas, nos trouvailles et nos essais vivront encore dans un recoin de l'univers. J'ai imaginé ce monde sans toi. J'avoue, à 6h du mat, je te jure, j'ai regretté. Non, j'ai pas fait exprès, je me sens perdu dans mes rêves. Ou dans mes cauchemars, j'sais plus comment les appeler. Dans mes rêves ou mes cauchemars, j'sais plus comment les appeler. À contre-sens, à contre-temps. Et contre toi, j'y perds mes sens, tes yeux en face des miens. On fait l'amour en se regardant. Oh. En pleine contemplation, regarde les étoiles, puis regarde mon visage. Avant qu'ils disparaissent parmi tous ces mirages. Parmi tous ces mirages. En pleine contemplation, regarde les étoiles, puis regarde mon visage. Avant qu'ils disparaissent parmi tous ces mirages. Parmi tous ces mirages. Je voudrais contempler tous ces néons trop décuplés. Ça me plaît quand tu me parles, que tu soignes mes plaies. Et s'il te plaît, ne pars plus, même si je te crie d'abandonner. J'ai l'esprit qui doute, je crois que je vais tomber. Quoi qu'il arrive, il faut que tu me tiennes. Et traquons à la nôtre avant de prendre la fuite. Que tes démons te traquent, prenons juste une pause. Et pensons à ta vie sans la mienne, eh. J'ai le trac quand je dois dire la vérité. J'suis qu'une version décidée moi-même. Qu'une fusion de failles qui défie mes qualités. Vacille ma mémoire quand l'horizon se dissipe. Trop désolé pour mes envies, j'ai déserté leur vision. J'étais mon dévolu sans le vouloir sur cette femme. En pleine contemplation, regarde les étoiles, puis regarde mon visage. Avant qu'ils disparaissent parmi tous ces mirages. Parmi tous ces mirages. En pleine contemplation, regarde les étoiles, puis regarde mon visage. Avant qu'ils disparaissent parmi tous ces mirages. Parmi tous ces mirages.
C'était Contemplation, un des titres de la rappeuse Roxane. Rendez-vous ce samedi 7 décembre au 88 Live Club à Rennes pour la voir en concert.
Syllabe.
Nous avons la chance exceptionnelle de pouvoir assister à un événement rarissime.
La radio sauvage.
Ah ouais, effectivement.
En ce moment même, au Tambour se tient une conférence sur les femmes en situation de vulnérabilité et sur le sport. C'est dans le cadre des Mardis de l'égalité et c'est toi, Guy Blouen, qui nous en parle. Oui, le titre de cette conférence qui se tient sur le campus de Villejean, c'est « Femmes vulnérables et pratiques sportives ». Car si le sport peut sembler une évidence, son accès n'est en fait pas toujours facile, en l'occurrence pour les femmes détenues, les femmes du voyage ou les jeunes filles de quartiers populaires. Gaëlle Sampé est maîtresse de conférence en STAPS. Alors STAPS, c'est l'acronyme de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et maîtresse de conférence en sociologie à l'université Rennes 2. Elle est aussi membre du laboratoire Violence, Innovation, Politique, Socialisation et Sport à Rennes 2 également. Et c'est elle qui anime cette conférence. Elle a publié plusieurs travaux sur l'intégration par le sport ou encore sur le sport dans les prisons. Et j'ai pu la rencontrer cet après-midi. Elle nous explique quelles sont les barrières auxquelles sont confrontées ces femmes dites vulnérables pour accéder au sport et évoque les pistes possibles pour améliorer les choses. Quand on parle de femmes vulnérables face aux pratiques sportives, on parle ici des femmes détenues, des jeunes femmes de quartier populaire et des femmes du voyage. Ce sont trois fractions de la population différentes. À quelles difficultés sont-elles confrontées dans l'accès au sport ?
Alors, avant de parler des difficultés dans l'accès au sport, il faut peut-être comprendre ce qu'on entend par public vulnérable, parce que ça explique les difficultés à accéder au sport. Par public vulnérable, du point de vue de la sociologie, on peut alors adopter plusieurs cadrages théoriques, mais le mien était le suivant. Si on considère que l'intégration n'est pas un état voilà, stable, mais un processus, au cours de sa vie, on peut évoluer et les déterminants hein, de cette intégration sont multiples, notamment le rapport à l'emploi, un emploi stable ou pas, un lien désuni à l'emploi et la richesse des liens relationnels en fait. Il faut ajouter à ça, de mon point de vue, alors ça c'est plutôt le cadre de Robert Castel, mais il faudrait ajouter à ça aussi la question de la santé. Alors ces femmes-là, ce qu'elles partagent, c'est justement un décrochage social sur ces trois niveaux-là, qui les conduisent effectivement, de par leur socialisation, ben, finalement n'avoir pas été socialisées, intéressées, à pas avoir développé un goût pour le sport, donc à s'interdire, s'auto-exclure, déjà d'identifier les éventuels le bienfait du sport et puis de s'y intéresser. Voilà, alors très rapidement.
Mais du coup, est-ce que ces difficultés-là d'intégration, c'est une barrière liée au genre ? Le constat serait différent si c'était des hommes ?
Alors, en fait, il y a plusieurs rapports sociaux qui sont entremêlés et articulés. Si on adopte un point de vue qu'on nomme intersectionnel, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'effet des rapports sociaux de sexe, du genre, toute sa construction, mais celui-ci s'articule et se superpose avec d'autres rapports sociaux, les rapports sociaux ethniques, les rapports sociaux d'âge ou de classe sociale. Et évidemment, pour ces femmes d'origine populaire, hein, pour la plupart, parce que les détenus notamment sont issus des fractions les plus instables du prolétariat urbain, y a un effet de cumulation. On va dire. Donc oui, la construction de l'identité sexuée on va dire d'une manière générale toutes les assignations liées au genre qui leur ont été transmises, instruites, agissent, ont une part d'explication